Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour à vous, amis auditrices et auditeurs, et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous recevons les trois membres du collectif du 17 octobre qui s'est créé pour commémorer la mémoire du massacre des Algériens du 17 octobre 1961. Cette commémoration s'est traduite par la pose d'une plaque allée de châle le 17 octobre de cette année en présence de la municipalité. Cette action a pu se faire grâce au collectif du 17 octobre dont les trois membres sont présents aujourd'hui à mes côtés. Vous, Michel ?
Michel Brocard, membre de la Ligue des droits de l'homme et membre du collectif du 17 octobre 61.
Bonjour, Jacques Fontaine, membre du mouvement politique Ensemble, du collectif du 17 octobre 61.
Voilà. Et vous ?
Bruno Calatayud, donc responsable local du Parti communiste français et membre du collectif indinois du 17 octobre 61.
Donc ce collectif s'est associé à la mairie donc, lors de cette inauguration. Et je vous propose d'écouter le propos de Fabrice Canet en introduction de notre entretien.
Le massacre du 17 octobre 1961 est la répression meurtrière par la police française d'une manifestation pacifique d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du Front de Libération Nationale dans un contexte de guerre d'indépendance algérienne. Maurice Papon, préfet de police de Paris, n'a pas hésité à mettre en place une répression sans limite en accord avec le gouvernement et la présidence de la République. 12 000 personnes arrêtées en quelques heures, provoquant de très nombreux morts et un grand nombre d'expulsions, faisant de ce 17 octobre la répression la plus meurtrière en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Il faudra attendre que les jeunes issus de l'immigration réactivent cette mémoire en la mettant en lien avec des crimes racistes contre lesquels ils se sont mobilisés. Les pères sont petit à petit sortis du silence à la faveur des luttes menées par ces jeunes. Ce sont ces nouvelles générations qui ont organisé les premières commémorations, s'adressant à la société française dans son ensemble, notamment en 1983, au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, puis qui ont œuvré à des commémorations de plus en plus importantes, touchant des publics de plus en plus larges, comme celle de 1991, pour que ces événements du 17 octobre 1961 et leur suite fassent l'objet d'un traitement médiatique, puis politique plus important, surtout avec le retentissant procès de Maurice Papon. Nombreux sont ceux et celles qui se sont mobilisés pour la reconnaissance de massacres et de ce qu'il implique, notamment Jean-Luc Enaudi, figure intellectuelle hors norme. C'est en 2012, à l'occasion du 51e anniversaire de la manifestation, que le président de la République, François Hollande, reconnaît avec lucidité, au nom de la République, la sanglante répression.
Bruno Calatayud, donc on vient d'entendre le propos du représentant de la mairie, et disons que vous rentrez donc dans un processus qui est instauré... Donc, depuis un certain temps, j'ai entendu auprès des jeunes de banlieue, et puis avec Jean-Luc Enaudi. Et vous, donc vous, c'est vous qui êtes à l'initiative maintenant de l'action qui s'est passée à Bourg-en-Bresse. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la genèse de cette initiative ?
Oui, donc en octobre 2022, j'ai proposé à mon parti de nous adresser à nos partenaires politiques, syndicaux et associatifs, dans le but d'apposer une plaque symbolique chaque année à Bourg-en-Bresse, dans un endroit à déterminer. Et ce jour-là, donc le 17 octobre 2022, nous étions une petite poignée. Mais ça a permis une rencontre déterminante avec Jacques donc, et Michel. À la suite de cette rencontre, nous nous sommes réunis un certain nombre de fois et avons décidé de proposer la création du collectif indinois du 17 octobre 61. Création qui s'est faite le 6 juillet 2023 avec l'aval donc de sept partis politiques et de la LDH.
Pourquoi ce 17 octobre ? Parce qu'on a beaucoup de commémorations actuellement.
Alors, on est en plein dans la trace laissée par le colonialisme et dans notre pays. Et donc, il est important de rappeler cet épisode de notre histoire, à la fois pour éviter que les erreurs se reproduisent. Hein. Donc, suite à la création de ce collectif, donc le 24 juin 2024, nous avons eu l'accord de la mairie pour la position d'une plaque officielle à Bourg-en-Bresse. Et donc, en octobre 25, la cérémonie a eu lieu avec une centaine de personnes présentes.
J'ai vu que vous avez parlé des spectres qui peuvent revenir. Et donc, mais peut-être que vous êtes tous les trois, parce que j'ai remarqué que vous êtes tous les trois, donc vous avez été embarqués dans l'histoire de l'Algérie à un titre ou à un autre.
Oui, donc moi je suis fils de pieds-noirs, on va dire. Fils de famille pieds-noirs. Donc j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 6 ans et je n'ai pas suivi l'imprégnation idéologique qu'ont suivi les pieds-noirs qui ont vécu là-bas depuis 130 ans. Et donc j'ai bénéficié de l'enseignement de la République et donc ça m'a... Et aussi de rencontres qui m'ont permis de voir les choses d'une manière différente et d'arriver au parcours politique que j'ai et à l'implication que j'ai aussi par rapport à l'Algérie.
Jacques Fontaine, vous-même, donc, vous êtes impliqué donc, dans l'histoire de l'Algérie.
Oui. Après mai 68, j'avais 20 ans en 68, moi qui suis issu d'une famille paysanne brassane, ça a été évidemment pour moi... un moment fondateur. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé beaucoup aux relations entre les pays occidentaux et ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et donc, après mes études universitaires, j'ai décidé de demander la coopération en Algérie à un moment où il y avait une ouverture française en direction de l'Algérie suite à la visite de Giscard d'Estaing en Algérie à la fin de l'hiver 1974. Et je suis parti pour 2 ans en coopération, j'ai fait 5 ans. J'ai pu confronter le savoir universitaire que j'avais acquis avec la réalité d'une autre civilisation que la civilisation française et européenne. Et c'est évidemment très enrichissant. Et je me suis aperçu que la population algérienne était extrêmement ouverte et que nous avons passé 5 années extrêmement intéressantes et formatrices. Cette découverte de l'autre, cette découverte de sa vie, cette découverte de son passé, pour moi, ont été un acquis extrêmement important de ces 5 années passées en Algérie.
Michel Brocard, vous, c'est dans des circonstances différentes que vous avez découvert l'Algérie.
Ah ben moi, j'étais enrôlé dans la guerre coloniale et j'ai vécu un peu plus de 18 mois en Algérie, mais dans un esprit assez particulier. J'y allais vraiment pour, en quelque sorte, être témoin au sein de l'armée, ce qui n'a pas été facile, de la nécessité de l'indépendance de l'Algérie. Alors, c'est facile à imaginer qu'en étant militaire, contre l'Algérie et contre les Algériens, la vie n'a pas été facile pour moi pendant l'armée. J'allais à contre-courant complet de la volonté politique. Et soit dit en passant, à ce moment-là, c'est un gouvernement socialiste qui était en tête, et le même gouvernement socialiste de la SFIO du moment qui avait ordonné les pleins pouvoirs, qui donnaient les pleins pouvoirs à l'armée, y compris les tortures, les éliminations, les exactions, les étouffements en grotte, etc. quoi. Et j'en garde à la fois la blessure, mais en même temps la satisfaction d'avoir résisté.
Ah, pendant cette période.
D'avoir résisté à la pression de l'armée coloniale et d'avoir fait des rencontres, dans le même moment d'ailleurs, avec des Algériens qui avaient une autre idée de la France.
Voilà. Une autre idée de la France.
C'est-à-dire que pendant la période militaire, ça a été très difficile pour moi. J'étais à contre-courant. J'ai été condamné plusieurs fois de complicité avec l'ennemi Et ma question était éternelle, qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi ici? Et on ne m'a jamais bien répondu. Il suffisait que j'accomplisse les peines qui m'avaient été ordonnées. Quoi.
Alors aujourd'hui, tous les trois, hein, vous voyez, vous avez vu ressurgir les specs du colonialisme et donc vous avez tenu donc à faire revivre un événement très oublié de l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc, le 17 octobre.
Oui, je crois qu'il faut remettre le 17 octobre dans une histoire longue. Je ne suis pas historien, j'ai fait des études d'histoire et de géographie, mais je suis d'abord géographe. Ce qui s'est passé en Algérie pendant 132 années n'est que la suite logique d'une volonté de domination du monde par l'Europe. Cette volonté de domination du monde entier, est évidemment consécutive à la découverte des Amériques en 1492. Il y a là un basculement historique fondamental et une ouverture qui va amener d'une part au développement du capitalisme, le développement du colonialisme, le développement du racisme. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Hein, ce qui s'est... C'est plus de 500 ans aujourd'hui de colonialisme. Donc on a une continuité dans ce colonialisme avec les éliminations, les génocides.
Bruno Catalayun, vous vouliez parler de réconciliation ?
Oui, effectivement. L'autre aspect de l'importance de la mémoire, hein, de l'absence d'oubli, c'est... pour ce qui nous concerne avec l'Algérie, c'est aussi un travail de réconciliation, hein, de la réactivation de la mémoire, le travail historique pourrait permettre de panser des plaies et donc de parvenir à un rapprochement des peuples et des populations, y compris dans notre territoire français.
Donc c'est cela pour lequel vous militez tous.
On tient à célébrer, autant que nous sommes ici, la mémoire du 17 octobre 61. Pourquoi ? À quoi sert de célébrer une mémoire si elle ne sert pas le futur de l'humanité, du vivre ensemble et de la démocratie ? Ça ne sert à rien de célébrer une mémoire si on n'aborde pas cette question. Alors notre rôle, c'était ça. Ce n'était pas pour autre chose de mettre une stèle ou une plaque en mémoire du 17 octobre.
Il s'est passé un événement récent, enfin, où, avec une volonté affirmée peut-être de revenir sur des accords donc, à la suite de la guerre d'Algérie qui ont eu lieu en 68. Qui veut en parler ?
Oui. Le 30 octobre dernier,
oui.
Le 30 octobre dernier a été votée une loi sous l'instigation de l'extrême droite, du Rassemblement national, pour la révision et l'abrogation des accords de mai 68 qui accordaient aux Algériens un certain statut de vivre en France. Il y a plus de 2 millions d'Algériens en France qui contribuent à la vie économique française, qui sont insérés, qui contribuent au monde culturel aussi bien qu'au monde sportif. Eh bien, nous sommes navrés, et raison de plus de célébrer cette mémoire, de voir que le Front National a obtenu ce vote, a été majoritaire, grâce aux apports des voix de la droite républicaine. Alors, c'est une alerte. C'est une alerte qui nous est posée, grave.
Donc, rien n'est jamais acquis.
Non, rien n'est jamais acquis et malheureusement, comme le dit un proverbe bien connu, les peuples qui oublient leur histoire sont condamnés à la revivre. Alors, cette formule est un petit peu schématique et je ne la fais pas totalement mienne, mais je l'utilise simplement pour alerter. Alerter parce qu'aujourd'hui, il y a, et pas seulement au niveau français, au niveau mondial, des pressions qu'on peut qualifier de révisionnistes et d'un refus des enseignements de l'histoire qui, aujourd'hui, se développent, je dis bien partout. Trump, bien entendu, le RN, Orban, Netanyahou, Poutine, tous ces gens-là, sont dans une négation de la démocratie, une dénégation des acquis des luttes historiques progressistes.
Merci messieurs, j'aurais retenu également un terme positif qui est le terme de la réconciliation. Eh bien j'espère que vous aurez cette même volonté, amis auditeurs, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.